À 75 ans, des lunettes depuis toujours et des costumes en plumes paillettes avec plateforme shoes aux pieds, tout en étant assis derrière son piano pour interpréter des tubes entrés dans les oreilles du monde entier. Aujourd'hui, et jusqu'à midi, Popenko est Elton John. Un musicien qui se rêvait en secret comme Jerry Lee Lewis, mais qui ajoutait « Pourtant, je vous jure que c'est pas facile de jouer du piano debout avec mes bras trop courts. » C'est l'histoire d'un gamin anglais qui ne se voyait pas au centre de la scène et qui sera sur la plus grande d'Europe, à Paris, la Défense Arena, face à 40 000 personnes demain et après-demain. Les looks et les extravagances d'Elton John font parfois écran à un répertoire parti du blues et qui va explorer tous les registres musicaux. À un moment où la pop était la plus ouverte et la plus expérimentale possible, je veux parler des années 70. Il en incarne à la fois le brio et tous les excès, en parallèle avec un compatriote qui s'appelait David Bowie. Bowie maîtrisait tout, de ses déclarations et de son apparence, quand Elton John ne s'est laissé guider que par son instinct sans faire le tri, en découvrant quel homme il était, d'album en album. Quand John Lennon l'a entendu pour la première fois en 1970, il a déclaré « Je n'ai jamais rien écouté d'aussi bien depuis les Beatles. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co. »
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique!
Hakuna Matata. Quels sont fantastiques!
Ces mots signifient que tu vivras ta vie
sans aucun souci. Philosophie.
Hakuna Matata.
Lorsque vos enfants hurlent ce tube, écrit pour le dessin animé Le Roi Lion, il chante donc la musique d'un Anglais qui vient de fêter ses 75 ans. Selon l'état civil, il s'appelle Reginald Kenneth Dwight, plus connu sous le nom d'Elton John. Son enfance à lui s'est passée au nord-ouest de Londres dans les années 50, et c'était pas la joie. Les parents s'engueulent en permanence, et le seul point positif de la vie de ce gosse, ce sont les disques que sa mère achète et qu'il reproduit à l'oreille sur le piano de mamie. Vu ses dons, on l'inscrit à la Royal Academy of Music de Londres, où il apprend à jouer du Bach et du Chopin. Mais, en 1954, en Angleterre, comme partout dans le monde, le rock'n'roll arrive. Dans son autobiographie, Elton John écrit que c'est comme si le pays était passé du noir et blanc à la couleur. Dans le documentaire de Christian Wagner, Elton John, A Singular Man, Elton détaille ses influences musicales. Yeah. Fats Domino, donc.
I found my thrill.
And then there... Il y a eu ça.
Jerry Lee Lewis.
You jam my nerves and you rattle my brain.
Et bien sûr, Little Richard. Il y avait aussi le style country avec Floyd Kramer. Tous les pianistes m'ont influencé.
Ce qui est génial dans le rock'n'roll, c'est que même un type comme moi peut faire carrière. Il a toujours eu cette posture-là.
C'est Hugo Cassavetti qui vient de citer Elton John. Hugo Cassavetti est journaliste à Télérama. Il revient sur Little Richard et Jerry Lee Lewis, deux musiciens qui ont aimanté Elton John.
C'est ces deux rockers-là, parmi tous les pionniers, qui ont démontré qu'avec un piano, on pouvait être aussi vivant, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé d'être resté coincé derrière ce qu'il appelle un buffet de 2 mètres de long. On est juste caché. Il se dit, quelque part, c'est une vie, quoi. C'est une vie et qui pourrait peut-être me correspondre, lui, qui est l'antithèse absolument de ça. C'est-à-dire un petit gamin complexé, qui se sent très laid, il est... Peut-être que dans le piano, il a mis encore plus pour s'isoler de ses parents qui s'engueulaient. Ça le dépasse, quoi. C'est un peu inexplicable, quoi, ce talent, ce don qu'il avait.
1965, Reginald, pas encore Elton, a 17 ans et il prend la route avec le groupe Bluesology. Ses premiers pas sur scène, il les fait donc comme bluesman, au piano, et on l'entend ici.
Bluesology va finir par accompagner l'un des grands musiciens du blues britannique des années 50 et 60, c'est Long John Baldry. Dans son livre, Elton John le décrit comme outrancièrement gay et d'une générosité extraordinaire. Long John avait déjà pris Rod Stewart sous son aile, il initie le futur Elton à la scène. Et puis Reginald en a eu marre d'écumer les clubs plus ou moins miteux avec un cafetan sur le dos et des grelots autour du cou. Pour tourner la page, il change de nom. Reginald Kenneth Dwight, c'est ridicule selon lui. Il choisit donc le prénom du saxophoniste de Bluesology, Elton, et John comme le fameux Long John Baldry. C'est donc son expérience du blues qui a décidé du pseudo de cet homme. Conclusion d'Elton John, quand j'ai annoncé ça au groupe, ils étaient tous pliés de rire. Ils m'ont quand même souhaité bonne chance. Liberty Records recherche talent, c'est la petite annonce publiée par une maison de disques à laquelle Elton John répond. Hugo Cassavetti.
Il fait une audition et le type lui dit non. Il prend une enveloppe et lui donne cette enveloppe pour lui dire « Non, moi je veux pas de toi, mais tiens, j'ai reçu ça, c'est des textes si tu veux ». Elton John a toujours dit, j'ai pris cette enveloppe, plutôt vexé, dépité. La logique aurait voulu que je la mette à la poubelle, quoi. Et puis, dans le métro, il l'a ouverte. Il y avait tous ces textes de ce Bernie Taupin, qui était un gamin, qui, lui aussi, avait tenté sa chance, avait vu la même annonce, et avait envoyé ses textes. Il est rentré chez lui, il a composé deux, trois musiques dessus. Ils se sont parlé, ils se sont rencontrés, jusqu'à ce que, Bernie Taupin vienne s'installer à Londres. C'est un peu comme Spirou et Fantasio. C'est assez touchant parce que c'est un des rares cas où c'est donc un tandem auteur-compositeur. Ils sont tous les premiers albums. Bernie Taupin a toujours droit à sa photo presque aussi grande que lui. Là, il a toujours été considéré comme l'élément, le pivot central. D'ailleurs, c'est ce qu'a toujours dit Elton John. Il dit oui, moi je pense que je l'aimais. Il ne s'est jamais rien passé entre nous, mais voilà. Et on ne s'est jamais fâché en maintenant 50 ans. Quoi. Ouais.
Bernie Taupin vient du Lincolnshire. Et Elton John ajoute, pas vraiment l'épicentre du rock'n'roll. Bernie y travaillait dans un élevage de poulets à trimballer de la volaille morte dans une brouette. Lui, comme moi, n'avons rien à perdre. D'ailleurs, ça commence par des bides, avec un premier album qui n'est pas vraiment remarqué, donc. Alors ils continuent d'essayer de placer leurs chansons à droite à gauche, mais personne n'en veut, sauf celle-ci, qui fait...
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live.
La chanson s'intitule donc Your Song. Le groupe anglais Three Dog Night est OK pour l'interpréter en 1967, mais c'est dans la voix d'Elton John qu'elle devient un succès 3 ans plus tard.
I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world.
J'espère que ça ne te dérange pas si j'ai mis par écrit que la vie était belle depuis que tu es de ce monde. C'est le refrain de Your Song, soit la déclaration d'amour d'un modeste.
Il y a de la soul dans ce qu'il chante. Et c'est ça qui est très particulier. À un moment où le rock psychédélique est mort, les Beatles sont finis, le hard rock prend de plus en plus d'ampleur à travers les Stones qui dominent et surtout les Led Zeppelin, Deep Purple qui triomphent. Et il y a cette autre voix qui va créer un petit schisme d'ailleurs entre le public rock puriste pour qui le rock doit être effectivement quelque chose d'assez dur et puis il va y avoir des Black Sabbath et tout ça et ce qu'on a appelé un temps c'est aujourd'hui on pourrait plus mais c'était un peu on disait que la musique c'est un peu plus pour les filles on va dire ce qu'on disait Simon et Garfunkel les Bee Gees c'est-à-dire des choses extrêmement précieuses délicates donc il est plutôt associé à ça au début.
So excuse me for getting... These things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody
this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world.
France Inter. Rebecca Manzoni.
Let's begin at the very beginning.
Pop & Co.
A very good place to start. Hi. I'm Elton John. Here we go.
Les débuts d'Elton John, donc. C'est en Angleterre d'abord, mais aux États-Unis surtout. Et c'est en une soirée ou quasi que beaucoup de choses se jouent. Ça se passe le 25 août 1970 dans une salle de Los Angeles qui s'appelle le Troubadour. Hugo Cassavetti.
Et quand il arrive à Los Angeles, il voulait même pas y aller. Il dit mais non, on est inconnu là-bas. Il y avait une attente énorme, phénoménale au Troubadour. Et sur scène, c'est devenu cette espèce de bête de scène. Alors, beaucoup de gens ont été déroutés parce qu'on attendait juste un petit récital d'un petit bonhomme à lunettes. Et il voit ce type qui saute en l'air dans tous les sens, pourtant sans guitare. C'est-à-dire que juste avec la force du piano et de sa rythmique, son batteur. Et il gagne une crédibilité. C'est aux États-Unis, effectivement, que ça se met à démarrer. Et lui, il s'est libéré de quelque chose. C'est-à-dire que jusque-là, il pensait que sa vie, c'était chez lui, chez sa mère, à composer des chansons, de découvrir cette autre lui, qui, alors ça va être toute l'histoire de sa vie jusqu'à ce qu'il comprenne, à la fois le libère et en même temps le coupe de lui-même. C'est ça l'histoire d'Elton John. Mais toute sa force vient de ça, de ce combat interne où il se sent vivre sur scène. Et le symbole de ça, c'est le nom qu'il a choisi, Elton John. En 72, il a même officiellement adopté le nom.
Ce nom, c'est aussi le titre de l'album qu'il fait connaître en 1970. Très vite, Elton John enchaîne avec deux disques qui ne comptent pas de gros tubes. Mais il consolide une équipe qui va régner sur l'industrie autour de 1975-76, puisqu'à ce moment-là, Elton John va représenter 3% des ventes mondiales de disques à lui tout seul. Cette équipe gagnante, c'est le producteur Gus Dudgeon et l'orchestrateur Paul Buckmaster qui venaient de travailler l'un et l'autre avec David Bowie. Dudgeon et Buckmaster co-inventent une bande-son aventureuse au service des mélodies d'Elton John. Ils ouvrent grand un répertoire qui va des ballades romantiques avec pop symphonique au rock progressif ou inspiré par le gospel. En 1972, Elton John a 25 ans et il en est déjà à son cinquième album. Il vient à peine de quitter l'appartement de maman. Il s'installe plusieurs mois en France, dans le Val d'Oise, au château d'Hérouville, dont il a déjà été pas mal question dans Pop & Co. Le château d'Hérouville, donc, du bon vin, de la bonne bouffe et un excellent studio d'enregistrement. Elton John continue d'interpréter les textes de Bernie Taupin, et c'est toujours comme s'il les avait écrits lui-même. Parce que Bernie colle à la vie d'Elton. Certaines chansons évoquent son homosexualité avant même qu'il ne la révèle officiellement. C'est le cas de celle-ci. Le titre, c'est « I think I'm gonna kill myself tonight ». Je crois que je vais me tuer ce soir. Le tout scandé sur une bande-son insouciante.
Think I'm Gonna Kill Myself Tonight, qui raconte la tentative de suicide qu'il a faite, alors un peu comique parce que il a allumé le gaz mais il a bien ouvert la fenêtre, parce qu'il était à deux doigts de se marier. Elton John a été vierge jusqu'à 23 ans, donc en 68, ne sachant pas, il se dit oui, peut-être que je devrais me marier. Il a cette fille comme ça qui s'inscrit dans leur vie. Ils habitent même à trois à un moment et ça devient un enfer. Et c'est le fameux Lon John Baldry qui revoit, qui lui dit mais ne fais pas ça, quoi. Tu fais une folie. De toute façon, tu es gay. Alors tu dis mais non. Mais ne le fais pas. La fille a disparu à jamais. Il a culpabilisé énormément, donc il a fait cette espèce de tentative de suicide. Donc déjà, il y a une chanson qui ne parle que de ça. Et donc, on peut en relire énormément maintenant à l'aune de ça. Il y en a d'autres, il y a Daniel. Toutes ces chansons qui sont quand même des chansons très tragiques, très souvent avec des prénoms de garçons, ce qui était très atypique. C'était vraiment la tradition, c'est d'avoir des chansons de Michel à Angie, c'est toujours des filles. Et même Nikita, il me dit, il m'a encore réussi à faire une chanson d'amour pour une fille en lui donnant un nom de garçon, quoi.
Pas de prénom de garçon, mais un homme fusé que Bernie Taupin met en scène dans une des chansons qui figure sur l'album Honky Château. Rocketman, donc. Un homme propulsé dans la stratosphère et qui déclare « Je ne suis pas l'homme qu'il croyait lorsque j'étais à la maison. »
C'est-à-dire que c'est une chanson Rocketman qui parle d'un cosmonaute en disant à la fois c'est incroyable, quoi, il atteint le sommet, mais il est totalement seul, quoi. Donc on a dit au début, oui, bah, c'était une parabole du succès, mais ça donne aussi l'idée toujours d'être prisonnier de quelque chose. On ne sait pas de quoi, d'un passé, peut-être d'une sexualité qu'on ne peut même s'avouer non seulement aux autres, mais à soi-même. On peut tout lire là-dedans.
On peut tout lire là-dedans, y compris une chanson sur la drogue, enfin le type qui plane.
On peut dire ça aussi, ouais. De toute façon, à un moment, toutes les chansons qui, à partir de 67, parlent de planer, d'avions, de choses comme ça, sont
d'espace.
Toujours associées à ça et d'espace, sont toujours des histoires de planerie, donc on sait à quoi c'est lié, ouais.
Au moment même où Elton John enchaîne les succès et les albums, l'utopie pop des années 60 prend fin. En 1969, à Altamont, Californie, les Rolling Stones organisent un festival pendant lequel un Hells Angel tue l'un des spectateurs. Et les Stones se carapate en hélico. La même année, Richard Nixon vient d'être élu président des États-Unis et le pays s'enlise dans la boucherie du Vietnam. Hugo Cassavetti.
Et c'est là où il y a un basculement, que le rock ne devait plus forcément refléter une espèce d'insouciance et de joie de vivre. Donc au tournant des années 70, le rock est devenu très sérieux en fait. Le glam rock a été une réaction à ça, de faire une musique qui restait très très rock, mais de revenir à l'idée que c'est une musique qui était juste pour danser, s'amuser. Et l'idée que tout à coup, pourquoi être juste moche avec des barbes longues, ce qui était le cas, hein, le look, c'est au contraire, soyons beaux, soyons plus beaux que l'on est, quoi, voilà. On va rendre la vie plus belle et refaisons de la musique un fantasme, pas le reflet de la réalité. Et du coup, les Stones, parce que les Stones aussi, Elton John, tout ça ont vu plutôt l'occasion de se lâcher du côté des fringues, de tout ce qu'on veut. Et pour quelqu'un comme Elton John, c'est la démesure totale, quoi. D'abord parce qu'il a des fonds illimités et il a zéro complexe et je pense qu'il est capital chez lui, mais zéro peur du ridicule, ce qui le rend extrêmement sympathique pour les uns, horripilant pour les autres.
Le répertoire d'Elton John n'épouse que partiellement le glam rock, mais pour l'extravagance des looks, c'est vrai qu'il y adhère à 200%. Pour le Muppet Show, c'est le client idéal, par exemple. Dans une des émissions du Muppet de l'année 72, il interprète ce morceau, Crocodile Rock, dans un costume qui, selon lui, le fait ressembler à un poulet multicolore. Et il ajoute « J'ai adoré ». Mais c'est vrai que c'est pas simple de chanter avec des plumes dans la bouche.
« Ouais, bonjour, c'est Sophie. Je me suis déconnectée et reconnectée.
Voici Sophie Fontanelle, qui se définit comme écrivaste. Elle écrit donc, notamment dans le magazine L'Obs, où elle pose son regard et sa plume sur la mode. Un soir, Sophie Fontanelle a eu la chance d'assister à un concert privé d'Elton John à Paris.
Bah, j'étais devant lui, là, à 1m50. Il a un petit corps trapu, enfin, il a des petits doigts courts. On sent que c'est quelqu'un qui n'a jamais dû, surtout qu'il est gay dans une esthétique homosexuelle où la beauté est tellement vantée. On sent que c'est quelqu'un qui s'est créé une autre beauté, une para-beauté, en fait, qui passe par les vêtements, qui passe par l'audace, voilà. C'est qu'il n'y a aucun effort de séduction érotique chez lui. Il s'est mis dans une autre chose, et je vous dis, je suis quasiment sûre de ce que je dis, c'est parce que c'est quelqu'un qui ne devait pas vraiment faire confiance à son physique.
Ça, c'est exceptionnel dans le monde des pop stars, de ne pas avoir recours à cette séduction érotique.
C'est rarissime. Par ailleurs, il a chanté l'amour tout le temps. C'est-à-dire qu'il chante ses déboires amoureux. Et c'est ça qui est bouleversant. Ça a un petit côté piaf, comme ça. C'est ce qui le rend si touchant. Et je pense qu'il y a universellement fait ces chansons d'amour des porte-voix pour les gens amoureux. Moi, je ne dirais pas qu'Elton John est unique en son genre. Elton John, il appartient à un groupe de gens. Pour moi, il y a James Brown qui était comme ça, il y a Prince, qui sont des gens qui se sont exprimés par le vêtement d'une façon complètement spectaculaire, en testant des styles, en osant absolument des choses folles. Si on prend par exemple Michael Jackson, pour moi, il n'est pas de ce club. Michael Jackson, il s'est trouvé un look, il s'est trouvé comme une panoplie, Michael Jackson. Elvis Presley, aussi fou que ce soit, et d'ailleurs... Elton John, à des moments, il a porté des choses qui ressemblaient à ce que portait Elvis Presley. Je pense que c'était des citations. Il a porté des jumpsuits, là, des espèces de costumes avec un zip au milieu là, qui passe sur la braguette et puis qui monte jusqu'au cou. Il va expérimenter le vêtement comme si il expérimentait des genres musicaux, en fait.
En revanche, il y a quand même un élément, le seul élément qui constituerait une panoplie, ce sont les lunettes.
Ah oui. Ses lunettes, c'était un petit peu comme dans la chanson où Adjani dit « pour montrer tout ce que je veux cacher ». C'est-à-dire que c'est à la fois très voyant et ça le planque. Et pour moi, ses lunettes sont une manière de se rendre sensationnel sans qu'on puisse voir le visage. Et en même temps, on ne voit que lui.
Il y a aussi une chose, c'est que ces tenues qui peuvent être extrêmement spectaculaires, par moments, on n'est pas loin du clown presque. Quand il se déguise en Donald Duck, ce genre de truc.
Oui, alors, il y avait une mode qui devait beaucoup l'aider. Il y avait un designer de star qui s'appelait Bob Mackie, qui habillait les vedettes et qui a fait ce costume de Donald Duck et qui faisait des tenues pour Cher. Il y avait une mode de ça. Une tenue de scène, ça voulait vraiment dire quelque chose. Donc, lui, en plus, comme il est original, ça poussait le bouchon très très loin. Faut pas oublier que moi, chaque fois que j'ai lu dans ma vie des choses qui racontaient les tenues d'Elton John, il précisait toujours que Elton John, sur scène, c'est avant tout une voix et une énergie. Et la tenue compte pas. En fait, elle compte quand on la voit en photo, mais sur scène, ça compte pas. C'est qu'en fait, il n'a jamais été mangé par ses tenues. Alors, en revanche, en photo, quand vous l'entendez pas chanter, ah bah, vous voyez que le look.
Les tenues d'Elton John inspirent encore largement les pop stars actuelles. On retrouve leur extravagance dans les looks de Lady Gaga ou dans ce d'un garçon qui fit partie d'un boys band à gros succès qui s'appelait One Direction. Ce garçon, c'est Harry Styles. Sophie Fontanelle.
Lady Gaga, elle est comparable à lui, au sens où Lady Gaga, c'est aussi une incroyable chanteuse. Donc, c'est comparable à Elton John. C'est des grands, grands talents d'interprète, des voix sensationnelles qui peuvent se permettre des vêtements complètement fous. Et d'ailleurs, même, elle a la chanté accrochée dans les airs. Enfin, voilà. Harry Styles, c'est différent parce que moi, j'adore ce garçon. Je trouve qu'il est très important pour l'identité aujourd'hui et comme l'a été Elton John sur le genre, sur le gender fluide. Maintenant, je suis pas complètement folle de ses chansons. Mais en revanche, son allure, et là, lui, il le dit quand il est interviewé, il cite tout le temps Elton John. Elton John, c'était un gay revendiqué comme gay. Harry Styles, c'est pas ça du tout. À ma connaissance, il est hétérosexuel, Harry Styles. Donc, il y en a un, il a essayé de montrer Elton John qu'on pouvait se montrer autrement, de manière flamboyante. Et l'autre, il montre qu'il n'y a pas de frontière entre la fierté gay de Elton John et lui, Harry Styles. Ça peut être la même image. C'est fort hein, comme message.
Il y en a un qui n'approuvait pas les tenues d'Elton John. C'est son parolier, Bernie Taupin. Elton, dans tous les journaux, avec plateforme, shoes, plumes, paillettes, etc., ça risquait de copieusement décrédibiliser ses chansons. Sauf que, en 1972, Elton John publie Goodbye Yellow Brick Road, un disque qui va mettre tout le monde d'accord ou quasi. Dans son autobiographie, Elton John écrit « C'est un album plutôt sombre, avec des chansons qui évoquent la tristesse, la déception. On y croise des prostituées, des alcooliques, des assassins, ou encore une lesbienne de 16 ans qui trouve la mort dans le métro. Je me demandais vraiment qui pouvait acheter ça. Cet instrumental, que vous entendez sous ma voix, s'intitule d'ailleurs « Funeral for a Friend ». Funérailles pour un ami, donc. Une musique qu'il aimerait pour son enterrement. Elton John commence à écrire le disque en Jamaïque, sur les conseils des Rolling Stones. Sauf qu'une fois sur place, rien ne fonctionne. Et il faut attendre 3 jours pour remplacer un micro. Commentaire d'Elton John, Keith Richards était peut-être tellement défoncé que pour lui, 3 jours d'attente devaient passer comme une vingtaine de minutes. Résultat, de la Jamaïque, Elton passe au Val d'Oise. Retour au château d'Hérouville pour enregistrer Goodbye Yellow Brick Road. Hugo Cassavetti.
Je pense qu'on peut, si on en garde un, c'est peut-être, alors le mot chef-d'œuvre, c'est toujours bizarre, mais peut-être le plus accompli, déjà parce qu'il est double, mais qu'il incarne cette période hallucinante de créativité dans des conditions mais qui paraissent délirantes aujourd'hui. Quoi. Quand je disais qu'en 70, il a publié 5 albums, et en plus tout ça, c'était en quelques jours entre des tournées. Ils planent quoi tous les deux. Taupin, il écrit des textes en une demi-heure, lui il les compose en 40 minutes. En plus cet album est vraiment le plus complet. Où il part dans tous les sens, il y a du reggae, il y a du rock, il y a du l'impression que tout est possible. Alors ça pourrait être un gloubi-boulga d'éclectisme et tout, mais ça se tient.
Candle in the Wind est la deuxième chanson de l'album Goodbye Yellow Brick Road. Certains l'ont découverte en 1997 lorsqu'Elton John l'a interprétée et adaptée pour la mort de Lady Di. Mais Candle in the Wind a été écrite 25 ans plus tôt pour une toute autre icône, c'est Marilyn Monroe.
Ça correspond à une époque des années 60, c'est des Anglais de la génération après-guerre, qui ont grandi dans une Angleterre un peu désolée, où il s'est passé tellement de choses, l'explosion des années 60, mais qui vivaient, eux, de plein pied, tout le fantasme américain de Hollywood, des westerns, des comics, de tous ces comme ça. Parce que la plupart des textes de Bernie Taupin, quand c'est pas juste des histoires romantiques d'amour plus ou moins déçus, c'est souvent des fantasmes, des plaquages sur les héros américains. C'est toujours la même chose, l'endroit où tout est possible, où les gens se réalisent, et qui, en même temps, 9 fois sur 10, d'une manière ou d'une autre, se crament les ailes. Ouais.
Le titre même du disque Goodbye Yellow Brick Road est une référence au film américain Le Magicien d'Oz, sorti sur les écrans en 1939. C'est l'extrait du morceau Benny and the Jets, joué lors d'un concert privé en France en 1979. L'histoire d'un groupe de glam rock mené par une fille qui s'appelle Benny.
Benny and the Jets, qui est un morceau de pur rhythm and blues, et c'est un morceau de discothèque. Je crois qu'à un moment, on dit, on va le sortir en single, il dit, mais non, c'est trop décalé, et ça sort finalement parce qu'on découvre que toutes les radios noires le jouent, et ce sera le premier morceau d'un blanc qui se retrouve numéro un des hits parades de ce qu'on appelle le R&B noir aux États-Unis, parce que reconnu comme un des leurs, quoi.
You're gonna hear a lot.
France Inter. Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Nous sommes dans le grand studio de la rue Bayard avec un invité de marque puisqu'il s'agit de Elton John qui est venu.
Nous ne sommes pas dans un studio de la rue Bayard, mais dans l'un de ceux du 116 avenue du Président Kennedy à Paris. Et ce matin, Pop & Co. et Elton John aussi.
One, two. Oh, there you go.
C'est le mi-temps des années 70. Elton John vient de publier son chef-d'œuvre et il continue de composer au rythme d'un disque par an, dont Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboy, qui raconte son histoire avec son parolier Bernie Taupin. Mais Elton déprime. Ses chansons sont de plus en plus sombres, à l'exception de celle-ci. Go Breaking My Heart, qu'Elton et Bernie écrivent pour leur copine Kiki Dee, en duo avec le chanteur ici. Ce morceau est l'un des derniers de la collaboration avec Bernie Taupin avant une pause de 5 ans. Bernie reviendra ensuite. Mais pour l'heure, on est en 1976. Elton John n'a pas 30 ans. Concernant sa consommation de cocaïne, on dit qu'il a sniffé toute l'Amérique du Sud comme certains de ses collègues. Et pour l'alcool, on n'est pas franchement dans la modération non plus. Bref, Elton John fatigue.
Ça devient la plus grande star jusqu'en 75. Il est la plus grande star depuis les Beatles. Mais il est totalement largué émotionnellement, affectivement. C'est un gamin de 12 ans. Quoi. Mais je pense qu'il déprimait depuis un moment déjà. Et c'est pour ça que le seul endroit où il déprime pas, c'est en studio, mais surtout sur scène. Donc avec John Reed. Bon,
son manager. Et amant.
Avec qui il vit. Mais c'est quand même assez houleux parce que John Reed est un coureur qui n'aura aucune occasion pour se lever tous les jeunes mecs qui passent. Et ça le rend assez malheureux, quoi. Parce que c'est un super romantique, Elton John, en fait.
Elton John est en studio pour enregistrer l'album A Single Man, sur lequel figure cet instrumental, Song for a Guy. Sur les notes de pochette, on lit « Le jour où j'ai écrit cette chanson, je m'imaginais en train de mourir. Le lendemain, j'apprenais que Guy Burchett, le coursier de mon label, s'était tué dans un accident de moto. Elton John dédie le morceau à ce garçon. »
Je pense qu'il pouvait être absolument odieux comme toute star surpuissante et totalement sous l'effet de la cocaïne. Mais je pense que c'est un petit garçon avec un cœur d'artichaut, quoi. Et c'est toute la différence, elle est là. Quand on connaît bien l'histoire du rock, des Stones, des Zeppelin, c'est des gens assez méchants, quoi. Quand on dit que c'est des hors-la-loi, c'était des vrais hors-la-loi.
Des sales types.
Mais oui. C'est-à-dire qu'ils avaient, ils sentaient qu'ils avaient mérité. Ils avaient choisi une autre vie. C'était pas des gangsters ou des choses comme ça, mais ça leur donnait tous les droits.
Elton John, non.
Non, je crois pas. Elton John, il n'y a jamais eu de. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hypocrisie chez lui. Ouais. Je suis pas sûr que Jagger, tu vois, on lui dit que le coursier est mort, il va dire.
Elton John fait son coming out dans les pages du magazine Rolling Stones en 1976 contre l'avis de son entourage. Son audience décline un peu, mais ce qui va surtout le mettre de côté, c'est une nouvelle musique, le punk, qui a bien l'intention de balayer toutes les pop et rock stars du moment, comme le groupe Queen et Elton John. Mais il continue à composer avec plus ou moins de lassitude. Il s'achète une villa à Nice et le 25 février 1979, il fait partie des infos d'Antenne de Midi.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Le rock, le rock'n'roll marche très fort à Paris actuellement, Gérard Rolls, ou redémarre, je ne sais pas.
Au chapitre Regrets éternels, si vous avez manqué les concerts d'Elton John, il en a donné 5 à Paris au Théâtre des Champs-Élysées, là vous êtes vraiment impardonnable, car cela approchait la perfection. Elton John, c'était d'abord cette semaine la grande réconciliation avec le public parisien, parce qu'il s'était quelque peu fâché, il y avait une histoire de tomates il y a une dizaine d'années. Alors, grande réconciliation parce qu'il a eu un succès extraordinaire, et puis ensuite... perfection presque, parce qu'avec son percussionniste Ray Cooper, il a donné 5 concerts tout à fait hors du commun.
Et il continue de faire ce qu'il a toujours fait depuis qu'il a 5 ans, à savoir collectionner des disques, être à l'affût de tout ce qui sort. Pendant l'été 1980, il est toujours en France, et à la radio, il entend... heureux d'être là malgré tout. La suite, c'est Hugo Cassavetti qui l'a dit.
Et il adore cette chanson, il trouve la voix super. Et donc, dans ces cas-là, il dit « Ah bah, il veut trouver le numéro, qu'est-ce qui a fait ça ?» et tout. Donc, il les appelle. Ils sont persuadés que c'est un canular. C'est des espèces d'anglais qui les appellent en disant qu'il est Elton John. Donc, apparemment, 2-3 fois, chez le berger, oui, oui, c'est ça, merci. Et en fait, il découvre que c'est vrai, il le rencontre. Et... il est plus le Elton John mondial, donc il a peut-être d'autant plus le temps, mais ils font ces deux chansons ensemble, parce qu'il est même monté sur scène pour le chanter avec France Gall quand elle donnait des concerts à l'époque, quand il traînait en France au Palais des Sports.
Et donc, le résultat c'est...
Allô ? Ah, vous m'entendez ?
La chanteuse Imani est au bout du fil de Pop & Co. Elle vient de publier un album de reprise où figure une des chansons d'Elton John.
Elton John, c'est vraiment quelqu'un qui a fait partie de mon univers musical, puisque moi je suis une enfant des années 80. Et c'est quand même un artiste que j'ai toujours entendu, mais que j'ai mis du temps à écouter, si vous voulez. J'ai découvert que c'était pas un artiste de variété au départ, qu'il était plutôt même rock et que c'était surtout un compositeur génial. Puis en plus, il a une voix complètement atypique en réalité. On reconnaît tout de suite la voix d'Elton John et ça, pour moi, c'est touchant aussi.
I'm Still Standing, c'est ce morceau qu'a décidé de reprendre Imani sur son album Voodoo Cello. Et elle a choisi ce titre pendant que son fils regardait un écran.
À ce moment-là, mon fils regarde le dessin animé Tous en scène où il y a le gorille qui chante la chanson, puis joue au piano. Et du coup, on entend que le texte, en fait. Et ben, quand on entend que le texte de manière dépouillée et qu'on lui enlève tout le dansant, vous voyez, tout le divertissement derrière la peine du chanteur, ben, en fait, on entend le texte. Il l'écrit certainement à un ex qui l'a fait vraiment souffrir et il a été au sol une fois, plusieurs fois, à terre. Mais en fait, il s'est redressé et non seulement il s'est redressé, mais il tient debout. C'est une chanson sur la résilience, c'est une chanson sur le renouveau de soi. Donc c'est mon fils avec ses dessins animés qui m'a ramené au sens de la chanson.
I'm Still Standing, soit toujours debout, en 1983 donc. Toujours debout, pas tout à fait en réalité. Les drogues et l'alcool font encore largement partie du quotidien d'Elton John. Et c'est avec ça qu'il a tourné le clip de cette chanson, à Cannes, devant le Carlton, avec une troupe de danseurs au corps maquillé et tout, Hugo Cassavetti.
Pendant le tournage, il est arrivé, il s'est mis à poil, à danser tout nu, tout le monde ne sait plus quoi faire. Et puis surtout, il y avait toute une chorégraphie et j'ai vu qui c'est, la chorégraphe a dit, écoute, j'ai travaillé avec des artistes, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui ne s'est même pas bougé deux doigts. C'est pour ça qu'il y a une chorégraphie absolument minimale de sa part en gros plan avec son canotier et tout le reste. Et ça devient ce tube qui est ultra efficace, quoi. Et en même temps, raconte exactement où il en est. Et paradoxalement, ça devient la vérité parce que toute cette carrière des années 80, portée par des clips, mais voilà, tous les ans, il y a un nouveau Elton John. Il y a peu de chefs-d'œuvre. Après, on peut l'appliquer à tous à cette époque-là. Ils étaient tous un peu largués dans les années 80, quoi. Mais on les aimait pour ce qu'ils avaient été, quoi.
Merci à Hugo Cassavetti, Sophie Fontanelle et Imani pour leur participation à ce Pop and Elton John. Plusieurs des archives de cet épisode ont été puisées dans Elton John, A Singular Man, documentaire signé Christian Wagner. Moi, Elton John, c'est le titre de son autobiographie parue en France chez Albin Michel. Et depuis plusieurs mois, des albums font l'objet de rééditions. Hier a donc reparu une version deluxe du disque Madman Across the Water. Elle joue du piano, en pantalon à paillettes et plateforme shoes aussi, c'est Juliette Armanet pour clore ce Pop & Co.
Non, me regarde pas dans les yeux, je veux pas que tu vois que j'y vois que toi dans les deux, que je tiens plus très droit. Moi sans toi j'ai l'air un peu louche, mine de rien je tiens pas bien sûr.
Je tombe dans ma peine sans détail.
La semaine prochaine, du piano encore, puisqu'on explore le répertoire de Véronique Sanson. Et cette saison de Pop & Co 2021-2022 se terminera avec une célébration de l'été de l'amour qui rassembla de jeunes chevelus en 1967 à San Francisco. À samedi. Koy Nguyen a réalisé cette émission avec Dienab Sangaré ce matin. Ilinka Negulesco a préparé Pop & Co avec Margot Couillard et Jean-Baptiste Audibert, aiguille la programmation musicale. Samedi prochain, on reprend donc les mêmes et on recommence.